Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Les béatitudes sont parmi les plus connues des paroles prononcées par Jésus. Mais que signifient-elles? Didier est de retour parmi nous pour nous aider à les comprendre. Actuellement, nous abordons la septième béatitude, que voici. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Ce texte se trouve dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, au verset 9. À présent, le moment est venu d'accueillir notre invité, Didier. Bonjour.
Merci Yann, et bonjour à tous. Nous réfléchissons donc à la manière dont l'Église peut favoriser ou bâtir la paix. Malheureusement, et cela peut inclure les croyants, les gens ne vivent pas toujours en paix les uns avec les autres. On peut vivre des malentendus, des disputes, des querelles. Des fautes et des offenses peuvent être commises. Tout ceci peut amener des conflits et des tensions, des ruptures de relations et des divisions. De telles situations peuvent toucher les gens dans l'intimité de leur mariage, dans leur relation familiale élargie, ou dans leur relation entre frères et sœurs dans l'Église. Devant cette triste réalité, nous pouvons nous demander aujourd'hui, que peut faire l'Église?
Et quelle est votre réponse?
L'Église peut chercher à rétablir la paix là où il n'y en a plus, là où les tensions et les conflits semblent régner. Les responsables d'Église, ou simplement les chrétiens mûrs, pourraient servir de médiateurs et essayer d'aider ceux qui ne s'entendent plus à régler leurs problèmes de façon juste pour favoriser la réconciliation.
Je pense qu'il s'agit là d'une démarche difficile.
C'est vrai, Yann. Mais c'est une démarche nécessaire. Et selon Jésus, celles et ceux qui cherchent à accompagner d'autres personnes vers la restauration de la paix peuvent se considérer bénis malgré les difficultés.
Comment donc travailler à la réconciliation là où il y a des conflits? La Bible a-t-elle des conseils à donner?
Oui, je vais m'appuyer sur l'enseignement de Jésus trouvé dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, les versets 15 à 17, et 21 à 22.
Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes, pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois ?»« Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. »
Merci. Le scénario évoqué par Jésus finit par l'exclusion d'une personne du sein de l'Église.
C'est vrai, Yann. Mais il faut préciser que cette démarche d'exclusion est seulement réservée au pire des cas, celui où une personne refuse obstinément de se repentir et de se réconcilier avec une sœur ou un frère. Les buts de la démarche enseignée ici sont surtout ceux de la repentance, de la réconciliation, et de la restauration de la paix et des bonnes relations fraternelles. Le pas vers l'exclusion est considéré seulement lorsque toutes les tentatives de réconciliation ont échoué. Mais revenons au texte pour considérer l'enseignement de Jésus plus en détail. D'abord, Jésus parle des difficultés qui peuvent surgir dans nos relations familiales ou fraternelles. Car tous nous commettons des erreurs et nous n'adoptons pas une bonne conduite par moment. Nos erreurs peuvent être à l'origine de blessures, mais des disputes peuvent, dans le pire des cas, conduire à des ruptures de relations. Lorsque nous vivons ces difficultés relationnelles, la première chose que Jésus conseille de faire est d'aller voir la personne en question en tête à tête pour essayer de régler le problème qui s'est installé. Il faut bien sûr du courage pour entreprendre une telle démarche. Et il ne faut jamais oublier que le but est de restaurer la paix. Il est important d'aborder son prochain avec honnêteté, mais aussi avec humilité. Il faut lui expliquer pourquoi il nous a blessés, mais aussi chercher à l'écouter avec respect, pour essayer de le comprendre. Il est également nécessaire de considérer les reproches qu'il pourrait nous faire, et se demander comment notre comportement a contribué à ce que la relation soit devenue si difficile. Le but est que là où il y a eu faute, les uns et les autres le reconnaissent, le confessent en s'en repentant. Se pardonner mutuellement et discuter de quelle manière rétablir la relation sur de nouvelles bonnes bases est indispensable afin de restaurer la paix et de reconstruire la confiance.
Merci. Effectivement, cette démarche n'est pas facile et il faut l'avouer, parfois on ne réussit pas à rétablir la paix.
C'est vrai, Yann. Si la situation persiste, si le conflit s'aggrave, alors il devient souhaitable que des chrétiens posés et légitimes interviennent pour agir en médiateur. C'est la prochaine étape envisagée par Jésus. Lorsqu'une telle intervention est nécessaire, il vaut mieux, comme l'explique Jésus, que les deux personnes qui accompagnent les deux parties vers la réconciliation aient leur confiance totale. Une fois de plus, rappelons que cette démarche n'a pas pour but d'amener des sanctions. Elle a pour objectif de restaurer la paix et de bonnes relations. Celles ou ceux qui sont appelés à intervenir doivent écouter les deux parties avec patience et sans user de favoritisme. Ils doivent chercher à bien comprendre les raisons du conflit ou de la rupture de relation et faire preuve de beaucoup d'intégrité et de justice lorsqu'ils décident à qui attribuer les fautes. Ensuite, avec humilité et douceur, ils doivent encourager les uns et les autres à se repentir, à adopter un meilleur comportement et à pardonner aussi là où la blessure et l'offense sont bien présentes. De plus, de bons conseils à donner aux personnes concernées sont nécessaires afin que les relations puissent être reconstruites sur de bonnes bases. Ces démarches, surtout lorsque la situation est grave, demandent du temps, de la patience et beaucoup de sagesse. Les médiateurs sont des bâtisseurs de paix et la bénédiction de Dieu repose particulièrement sur eux.
Merci Didier pour ces bons conseils. Mais parfois, malgré toutes les tentatives de médiation possibles, on ne réussit pas à rétablir la paix.
C'est vrai Yann. Et c'est dans ce cas précis que Jésus envisage la possibilité d'exclure de l'Église la personne qui reste rebelle. Cette étape est à considérer seulement lorsque toute tentative possible de réconciliation a échoué. Maintenant, je vais vous dire pourquoi cette étape regrettable et douloureuse est parfois nécessaire.
Oui, éclairez-nous s'il vous plaît.
Si une personne continue délibérément à se comporter de manière blessante et offensante pour les autres, si elle ne reconnaît pas ses fautes, si elle manque d'humilité, si elle ne se repent pas, si elle n'est pas du tout conciliante, alors là, tout porte à croire que son comportement n'est pas chrétien, et on peut douter de l'authenticité de sa foi. Je peux ajouter que si la démarche de réconciliation aboutit à cet acte d'exclusion, une fois de plus, le but n'est pas la punition. Non, l'objectif est d'aider la personne à se remettre en cause. Si donc, suite à une exclusion, la personne se repent, à ce moment-là, on pourra redémarrer la démarche de réconciliation et éventuellement réintégrer cette personne dans l'Église si tout se passe bien.
Merci Didier, nous avons parlé de choses assez difficiles aujourd'hui, mais ô combien importantes. Comment voulez-vous conclure notre discussion ?
Jésus a terminé ce discours avec un rappel sur l'importance du pardon. Si nous voulons que nos relations personnelles les uns avec les autres marchent, si nous ne pardonnons pas, nous risquons de sombrer dans le ressentiment, l'amertume et la colère. Et le danger est que nous cherchions à nous venger en nous tournant contre ceux qui nous ont fait du mal. Toutefois, en exerçant le pardon, nous refusons ces mauvais sentiments et nous nous engageons sur la voie de la paix. Nous n'avons pas eu le temps de la lire, Mais cet enseignement de Jésus est suivi d'une parabole qui nous aide à comprendre que le chrétien doit pardonner parce qu'il a reçu lui-même de Dieu le pardon de ses péchés, au prix de la mort de Jésus sur la croix. Le chrétien pardonne parce que Dieu lui a tout pardonné. Le chrétien cherche à répandre la paix autour de lui parce qu'il a reçu la paix de Dieu. Or, Dieu peut aider tout chrétien dans sa démarche de pardon.
Merci Didier. Nous vous retrouverons lors de notre prochaine émission. Mais à présent, Étienne est de retour parmi nous pour nous faire part d'une courte méditation biblique inspirée des écrits du prophète Ésaïe. Écoutons, avant de lui céder la parole, les paroles du prophète au verset 10 du chapitre 54 du livre qui porte son nom.
Même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne bougera jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi.
Merci et bonjour à tous. Le prophète rappelle que Dieu a établi une alliance avec son peuple et il explique la nature de cette alliance. Une alliance est un accord formel entre deux parties qui définit leur relation l'une envers l'autre en termes de privilèges, de droits et de responsabilités. Dieu, dans sa grâce, a pris l'initiative d'établir une alliance avec son peuple. Et cette alliance est une alliance de paix. Car Dieu s'engage à vivre en paix avec son peuple. Il s'engage à lui donner la paix. Dans le Nouveau Testament, nous apprenons que cette alliance de paix a été scellée par le sang de Jésus. Autrement dit, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix qui nous procure la paix avec Dieu. Nos péchés sont pardonnés et nous sommes réconciliés avec lui. Lorsqu'un traité international est conclu, les chefs d'État impliqués signent un document. Il s'agit là d'un geste simple qui appuie l'engagement du pays entier à respecter le traité en question. Nous pouvons aussi dire que le sang de Jésus, son sacrifice sur la croix, est comme la signature de Dieu qui garantit d'une manière si coûteuse son engagement à respecter son alliance. Le prophète évoque les tremblements de terre, ces terribles catastrophes naturelles, si puissantes et destructrices. À travers ces images, le prophète affirme que l'alliance de Dieu, son amour pour nous et sa paix sont inébranlables. Toutes les forces déchaînées de la nature, des hommes ou des esprits, ne peuvent pas ébranler cet engagement du Dieu d'amour à vivre en paix avec son peuple. Les circonstances de nos vies peuvent être douloureuses, incertaines. Pour diverses raisons, nous pouvons beaucoup perdre jusqu'à nos amis, notre santé, nos biens, notre réputation. Cependant, si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, une chose est certaine et inébranlable, nous garderons la paix avec Dieu.
Merci Étienne de nous avoir rappelé ces précieuses vérités. Chers amis, nos deux invités seront de retour lors de notre prochaine émission Espérance aujourd'hui pour continuer nos réflexions sur le thème de la paix. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.